Donc, vous voyez, le problème, c'est celui de la modélisation de l'activité langagière de la classe du côté de l'enseignant pour un petit peu voir ce qui se passe du côté de l'élève et pour en mesurer l'impact. C'est un peu ça, mon idée. Hein. Et je comprends bien, je génère de la frustration. Je ne réponds pas à la question « comment on fait ?» Je réponds à la question « qu'est-ce que vous faites ?» Qu'est-ce que vous faites qui fait que ça fait parler ou pas ? D'accord ? Parce qu'après, pour moi, c'est un des enjeux pour après se mettre du côté de l'élève et voir ce que lui construit, ne construit pas, peut construire. Et si on montait du côté formation, c'est comment on fait pour accompagner et conseiller un enseignant dans la prise en compte des gestes professionnels. L'engager, s'entendre. Voilà, sur quoi on peut agir dans une visite de PES ou alors après dans des visites un peu plus structurées qu'un conseiller pédagogique peut mener, par exemple, avec un enseignant relativement en difficulté ou en grande difficulté. Puisque souvent, en tout cas pour moi maintenant c'est une piste importante, ça se joue justement dans des interactions qui sont plus ou moins bien comprises, gérées, interprétées et pas simplement dans la préparation des contenus. L'hypothèse, c'est justement la dynamique langagière, elle conditionne l'appropriation des contenus et des procédures. Au moins autant que les objets, le découpage des unités de signification de l'apprentissage, on est bien dans cette dynamique. Quand le programme nous dit à propos des essais d'écriture de mots, l'enseignant lit, l'enseignant bruite. Ça signifie bien que là, le langage, il est là pour faire comprendre à l'élève où il en est par rapport à ce qu'il devrait être. Vous voyez, la construction de la... Si j'essaie de lire, eh bien, tu vois, je ne peux pas. Ou alors, si je peux lire, je peux lire le début. Regarde, tu as écrit « mais », c'est tout. Voilà. Et donc, là, l'aide, elle consiste en reformulant, en répétant. Maintenant, je peux passer à la paraphrase. Tu vois, tu n'as écrit que les deux premières lettres du mot. Et d'accord ? Donc, cette paraphrase, elle a une valeur explicative. Est-ce qu'elle est entendue par l'enfant comme explication ? Bon. Alors, après, j'observe les réactions. Il se tait et il n'agit pas. Ça bloque. Il se tait, mais il agit. Il reprend la plume, ses épaules redescendent vers la feuille et il reprend l'écriture. Vous voyez les observables, c'est-à-dire je vois bien qu'entre ce que je lui ai dit a un impact parce qu'il me répond en se remettant à écrire. Ou alors, il me regarde. Et donc là, le geste est une demande d'eux. D'accord ? Et c'est ce que j'appelle la dynamique, c'est la somme de toutes ces petites procédures à graines très très fines. Et c'est ça qui est angoissant pour un formateur, c'est-à-dire que plus on réfléchit à ce qui se joue là au cœur de l'enseignement de l'oral, plus on s'aperçoit que c'est du microscope. Et donc ça, c'est un peu terrorisant. Et je ne parle pas, vous sentez bien que ce n'est pas de la théorie là, hein. C'est simplement le grain d'observation. Et la descente dans le grain d'observation, si j'ajoute en plus la théorie, bon, mais sans passer même par les théories de production, hein, ce grain d'observation, il peut vous laisser dire, et d'ailleurs les enseignants répondent, ah oui, mais comment veux-tu que je fasse ça? Comment veux-tu que je sois attentif à ce point, à ce qui se passe? D'accord, hein, c'est quasiment, sauf à dire on enregistre. Vous voyez, on revient à cette idée d'une vidéo formation qui serait au cœur de la classe, beaucoup plus souvent, pas avec des gens extérieurs, mais à votre niveau, tablette, portable. Et on y va. Hein. J'ai vu il y a 15 jours hein, la maîtresse qui utilisait un gros portable. Hein, on ne va pas dire la marque, mais. C'est-à-dire, les gamins ne savaient pas ce que c'était un canari. D'accord ? Bon. Alors elle leur dit il n'y a pas de problème. Tac, tac, tac. Et devant eux, elle tape et après, elle leur montre. Ah bon ? Alors c'est un petit oiseau jaune. Ok, bon, c'est un petit oiseau jaune. J'ai trouvé le petit moment là très intéressant en termes d'utilisation de l'artefact, de relance par rapport au lexique. Et puis d'intégration complète du numérique, hein, on va le dire comme ça, dans la pratique au quotidien. Dynamique langagière, mais y compris le geste de démonstration du téléphone portable. Alors vous pourriez dire, ouais, elle aurait dû préparer, puisqu'elle avait décidé que c'était le mot du jour, elle aurait dû préparer ses images, les avoir sous les mains, rien. On pourrait le jouer très sévère. Hein. Alors que là, on est dans une forme de spontanéité qui est intéressante du point de vue de l'interaction. À ce moment-là, elle déclenche l'opération. Bon, il y a le père saoulé au fond de la classe, il faut que je fasse un truc, quoi. Parce qu'il y a ça aussi, elle n'est pas dupe, elle sait que je suis derrière. Et en plus, il y a le maître formateur avec moi. Bon, donc il faut que je fasse un truc. Et elle trouve ce truc-là. Mais les gamins, ils sont fascinés. D'un coup, ça marche très très bien. Ah bon, alors c'est... Et le langage du côté des enfants, il démarre. Deuxième élément, c'est la même dynamique en termes d'accompagnement et de conseil qui fonctionne pour nous. Hein. D'ailleurs, moi, je crois beaucoup, s'il y a du développement réflexif dans notre relation de formation, c'est parce qu'on crée justement cette dynamique. Patrick, il vous met au travail, il vous fait parler sur ce que c'est pour vous que l'oral, on entend des mots, des occurrences, on entend des saillances, on va dire, hein. On entend de la marginalité, voilà les mots que vous avez utilisés. D'accord ? Hein, c'est-à-dire, vous dites c'est récurrent, donc si c'est récurrent, c'est que c'est important. Vous dites c'est marginal, mais vous dites quand même que c'est marginal. Quel est le degré d'importance du marginal par rapport au récurrent ? Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, une occurrence, une seule, peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on ne le croit sur des choses qui sont de l'évidence. Bon, je termine avec un petit corpus qui va nous déborder complètement. Je me mets début de cycle 3. Voilà une maîtresse. Cercle de lecture, on lit Moon de Rascal. C'est un corpus qu'on continue de travailler, extrêmement dense, très très long. Bon. J'aimerais qu'aujourd'hui, le cercle de lecture démarre sur un moment de travail personnel sur le texte. Je vous demande de relever tous les mots du texte qui parlent de l'océan. J'aimerais aussi vous amener sur une seconde piste de travail. Lors du dernier cercle de lecture, vous avez dit que vous trouviez ce texte poétique, il est beau, et vous proposiez de le dire avec la voix, comme un poème, le 1, c'est une note, ou de le jouer comme une pièce de théâtre. D'accord ? Proposition de l'enseignante. Voyez tout de suite, une consigne impossible à proposer à des élèves de maternelle. Densité, précision, dimension technique, contexte d'apprentissage. Le problème, c'est que parfois, quand on regarde des consignes d'atelier, elles sont au moins aussi compliquées que celles-là. D'accord ? Donc, relativisation, toujours pareil. Alors, si je prends ça et le modèle, hein, puisqu'il l'a cité, je vais aller plus vite, qu'est-ce que je constate ? Si je prends le « j'aimerais » à l'entame, « j'aimerais », le verbe « aimer » et le conditionnel, on est bien dans une mise en situation atmosphérique. Hein, personne n'est dupe, il n'y a pas à aimer ou à ne pas aimer, il va falloir bosser. D'accord ? Sauf que le dire avec un terme comme celui-là, et avec un modélisateur comme le conditionnel, engage bien sûr le groupe d'élèves autour de la maîtresse à vivre, hein, pensée, médiateur psychologique et social, à vivre le moment de lecture littéraire différemment. J'aimerais qu'aujourd'hui, un moment de travail personnel sur le texte. On a des indicateurs de temporalité, de pilotage temporel, qui ne sont pas, vous voyez, c'est pas responsable document. Vous voyez, ça tombe pas, vous avez 5 minutes pour relire le texte et 3 minutes pour relever les mots. D'accord ? J'aimerais qu'aujourd'hui, le cercle de lecture commence par un moment de travail personnel sur le texte. Il y a même une cadence. Hein. Ta-ta-ti, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Je continue. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit relever des mots et on doit dire si, pourquoi le texte est poétique. Vous voyez comment je me sers du modèle pour après traiter un petit corpus en disant finalement, dans cette matière langagière, dans cette production de l'enseignante, qu'on va appeler consigne, se jouent plusieurs gestes professionnels qui vont décider de la manière dont les élèves vont ou pas rentrer dans la tâche. Et puis tout d'un coup, juste après là, ce premier élément de corpus, elle va dire, est-ce que c'est assez clair ? C'est-à-dire, elle empile, elle s'arrête, elle reprend, et elle va dire aux élèves, est-ce que c'est assez clair ? Et voyez là le doute, y compris pour elle. Soit elle considère que c'était suffisamment clair et pourquoi à ce moment-là éprouver le besoin de le leur demander, et voyez bien que même quand on est dans cet état-là, en fait, on le leur demande toujours, soit elle se rend compte, en produisant ces consignes, qu'il y en a peut-être trop et qu'elle-même mesure la difficulté qu'il y a à gérer les deux temps et les deux pistes. D'accord ? Ça, c'est extrêmement intéressant. La seule façon de le savoir, confrontation, autoconfrontation. Il faut pouvoir lui remontrer le moment, enregistré ou filmé, pour lui dire là, voyons, dis-moi là. Au moment où tu leur dis, est-ce que c'est assez clair ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête ? Est-ce que c'est simplement l'idée que tu connais des élèves pour qui c'est dur et qui n'auront peut-être pas compris ? Ou est-ce que tu prends aussi la mesure que la verbalisation de ta consigne, elle comporte un élément de difficulté ? Et quant au tissage, vous voyez, quand elle leur dit au moment où elle leur dit, j'ai entendu hier, j'ai entendu que vous aviez vraiment envie d'eux. Elle fait ce qu'on demande obstinément à tous les PES de faire, c'est-à-dire de créer du lien entre les séances, de montrer que les choses avancent, qu'on continue, qu'on est dans la progressivité, et on voit bien comment ça se traduit par un changement de temps verbal, par de l'évocation, par de la mise à distance. J'ai entendu que vous aviez vraiment envie. Et hier, pour la lettre de Gédéon Le Lion, chez les grands, ça a très bien marché, cette idée. Qu'est-ce que c'est ? Alors, tout de suite, ils reconnaissent la lettre, d'autant que l'expéditeur, c'est l'empreinte de la patte du lion. Et immédiatement, là, toute la classe, et je pense de manière assez évidente, s'est mise à dire, oui, on a demandé pour le spectacle que Gédéon, le lion, il vienne avec nous. Voilà. Et l'opération de tissage, par le biais, vous voyez, de l'expéditeur, a très bien fonctionné. Ce qui montre qu'il est toujours intéressant de voir à quel moment, dans ce qui est dit par l'enseignant ou par les élèves, se construisent précisément ces opérations de tissage. Je termine. Allez, 5 minutes. Il bouge toujours pas. Il ne dit rien. Oui, non, mais je suis infernal. Bon. Je voudrais juste vous dire deux mots, du coup, sur deux gestes langagiers que j'appelle des gestes témoins, sur lesquels... Alors, le second a été beaucoup travaillé, le premier beaucoup moins, et mériterait de l'être sans doute davantage. C'est l'interpellation, donc toujours du côté de l'enseignant, et la reformulation. Je vous ai dit que la reformulation était un geste récurrent, puissant. Il en est presque autant de l'interpellation, parce que, et vous le comprenez bien, nous avons besoin, et d'ailleurs c'est, bon moi je dis toujours au PES, en 15 jours il faut que vous connaissiez très bien tous les prénoms des élèves de votre classe. Bon, on est là, et vous allez voir comment ça fonctionne. Je reviens, hein. Bonjour, bonjour, alors on rappelle un petit peu les règles pour être sûr qu'on ne parle pas tous ensemble. Joséphine, on regarde par ici. Quand on fait de l'analyse conversationnelle ou de l'analyse interactionnelle, il y a quelque chose qui remonte très vite, c'est cette idée que, bien sûr, c'est Joséphine qui fait les frais de l'opération. Mais il est évident que Joséphine, c'est un marqueur pour, hein, la collègue vient de faire le geste, pour tous les autres, ce qu'on appelle un trope. Hein. Il y a un effet communicationnel qui va bien au-delà du cas Joséphine. Fonction d'exemple. Hein. Fonction d'exemple. Vous voyez, l'interpellation, n'oubliez pas, c'est un terme juridique. Qui un costume, qui... Pardon. Et l'interpellation dans la classe... Il y a une dimension juridictionnelle aussi. Attention, il y a un problème. Je prends ce petit exemple. Regardez dans l'autre partie de Moon. Un élève a répondu le premier paquet sur la... Voilà, hein, le premier paquet que je vous ai lu. Bon, on était dans le « vous » en permanence au début. Donc l'interpellation, elle était inclusive. D'accord ? Le « vous ». Par rapport à un jeu, ce qui est intéressant, parce que en maternelle, on a tendance, à mon avis, à être trop dans le « on ». Trop, tout le temps, dans le « on ». D'accord ? Jouer, pas de conseils, mais peut-être intéressant de voir. Alors, vous. J'ai entendu que vous aviez vraiment envie de le dire à haute voix. Mais quand vous me dites que ce texte est poétique, j'ai envie que vous soyez un peu plus précis. Donc, non seulement les deux consignes de départ sont déjà copieuses, mais hop, reformulation, et on en rajoute une couche. Bien. Qu'est-ce qui est poétique ? Qu'est-ce qui, selon vous, donne ce texte, le caractère poétique que vous ressentez ? Voilà les deux pistes de travail avec lesquelles je souhaite que vous repreniez le texte. Et là, on a carrément du subjonctif. Donc, vous voyez comment le matériau langagier... Et d'un coup, le voilà. Est-ce que c'est assez clair, ce que je vous demande ? Est-ce que vous avez besoin de précision ? Et là, décrochage. On quitte le vous, et ça va, Hugo ? Ça va, Willy ? En formation, quand j'ai le temps, de faire l'exercice, je pose la question, qui est Hugo, qui est Willy? Et je laisse au PE le soin de, pendant 10 minutes, de discuter. D'accord? Alors, un élève en difficulté, mais pas les deux, un élève qui bavarde, Hugo et Willy sont en train de bavarder, qu'est-ce qui se joue si je n'ai pas l'image? Si j'ai l'image, qu'est-ce que je peux quand même dire de plus? Mais est-ce que j'arrive quand même à tout dire? Et comment se fait-il que la maîtresse ait besoin à ce moment-là d'utiliser Hugo et Willy? Est-ce que c'est comme Joséphine, c'est eux deux et eux deux seuls, ou est-ce que c'est eux deux par rapport à tous les autres? Donc l'interpellation, vous voyez, elle est partie prenante des relations inter-individuelles quotidiennes dans la classe. Quotidienne. Maîtresse, Aylan, il m'a battu, il m'a frappé, il m'a mordu. D'accord? Le vocatif, derrière la délation et le message de délation. D'accord? Ou au contraire, de demande de juridiction. Elle s'inscrit dans l'improvisation. C'est normal, je veux dire, vous n'avez pas prévu, dans la PrEP, là, vous n'avez pas dit, tiens, je vais interroger d'abord, ensuite, enfin. Donc, qu'est-ce qui nous fait interpeller tel ou tel élève à tel ou tel moment? L'élève lui-même, par son comportement, ou par rapport à ma question, ou par rapport au moment de la leçon, ce que Sansevi appelle le jeu didactique, et ce que Marie-Pierre Chopé appelle la visibilité didactique dans le jeu, justement, des interactions. L'enseignant, c'est le chef d'orchestre. Il sait très bien que s'il appelle tel ou tel élève, il va avoir tel ou tel type de réponse. Je sais quel est l'élève qui peut m'apporter la bonne réponse très vite. Je sais celui qui a des difficultés, mais j'ai besoin de l'entendre parce que sa difficulté retentit sur la difficulté des autres, c'est-à-dire elle permet de faire remonter la difficulté. Et puis, je vais éviter tel ou tel élève parce que lui, de toute façon, je sais que je vais devoir l'aider. Cette connaissance intuitive et cette orchestration complexe de la classe par l'enseignant, elle est bien sûr très étroitement dépendante de ce qui se joue au plan langagier. Et peut-être que c'est là qu'il n'y a pas assez de temps d'écoute et de temps de parole. Parce que si je le joue tout le temps chef d'orchestre, peut-être que j'aurais tendance à ne pas casser mes façons de faire et de faire fonctionner mes instruments. Si j'arrêtais de toujours interroger à tel moment tel type d'élève, si je faisais davantage confiance à l'interaction telle qu'elle peut se dérouler, on va dire plus, pas naturellement, mais dans une relation différente. Le simple fait de bouger certains élèves de place. On sait très bien que les angles morts, des deux côtés de la classe, invitent plutôt à interroger ce qui est dans l'axe visuel que ce qui est sur les bords. Ou alors d'aller chercher des élèves ponctuellement parce qu'on les voit bouger, donc on les interroge. Donc c'est l'action courante. Question, faut-il la laisser dans le champ de l'improvisation? Ou en faire un objet d'étude? Parce qu'elle est identifiée comme déterminante. Donc régulation de l'interpellation dans l'action. Je vais vous montrer, voilà, il est là. Regardez, début d'atelier d'écriture. Alors, chut, qu'est-ce que nous faisons ici? Le chut vaut pour au-delà de l'atelier, hein. C'est les 25 autres. Hein. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce que c'est un atelier d'écriture? Donc, vous voyez, immédiatement, secondarisation. Zélie, on apprend à écrire aussi, on écrit des choses. Oui, Reda, et on apprend à lire aussi. On apprend à lire en écrivant. C'est vrai ça, Marois, et aussi on apprend à lire. Ma question en formation, c'est combien y a-t-il d'élèves dans l'atelier? Et voyez bien que la maîtresse, elle fait un tour de chauffe. C'est-à-dire, elle passe en revue Anatole, Marois, Reda, Zélie. Hein, on fait passer en revue les élèves qui participent. L'interpellation a pour fonction ici de les intégrer. Mais, bien sûr, on les intègre à partir de quoi? D'une question initiale, pardon. Une question initiale qui est, qu'est-ce que c'est qu'un atelier d'écriture? Et ce qu'elle veut savoir, la maîtresse, c'est où ils en sont, et surtout des mots qui ont été écrits il n'y a pas longtemps. Jument, moto, oui, tu avais écrit, toi, moto. Et vous voyez, le « tu avais écrit » qui est une forme de tissage par rapport à une séance antérieure. Donc, l'interpellation va générer les reformulations du côté des élèves. Zélie ouvre le bal, on apprend à écrire aussi, on écrit des choses. Avec une distinction intéressante entre l'acte d'écriture et le contenu de ce qui est écrit. Et on apprend à lire aussi. Hein, Reda, qui connaît par cœur les programmes de l'école maternelle, a compris qu'on est aujourd'hui dans l'articulation du lire-écrire. on apprend à lire en écrivant, c'est vrai ça. Alors là, la maîtresse est super contente, donc elle reformule, on apprend à lire en écrivant avec une paraphrase, parce que ce qu'elle veut insister sur l'idée que oui, les deux apprentissages sont concomitants, et comme je suis là, elle est aussi contente de me regarder, de dire, ça y est, on les tient là. Marois, hop, on relance sur Marois. Mais Marois, elle vient d'arriver, elle est en très grande difficulté. Et donc, vous voyez, elle pioche un peu, et aussi, on apprend à lire. C'est-à-dire, Marois ne peut que reprendre l'énoncé de Reda, qui est au-dessus. Ce simple petit bout de corpus, ça sera ma conclusion, il y a de la production langagière élève, elle est motivée, activée par la décision que prend l'enseignant et sa façon d'interpeller les enfants, lesquels enfants, eux, vont s'écouter, s'entendre donner des éléments de définition qui vont être reformulés, retravaillés, repris, compris par l'enseignante. On est là dans le matériau, j'allais dire, typique d'une véritable analyse langagière en amont des préoccupations du questionnaire. C'est-à-dire que toutes les questions que nous nous posons, elles dépendent justement de ces temps d'imbrication entre le langage du maître, le vocabulaire, sa syntaxe, les pratiques, la situation, le moment et le grain d'analyse.